du FMI et de l'Union européenne. Accord sur un nouveau plan d'austérité sur 5 ans.
Et ne veulent entendre parler d'aucun consensus.
Alors, on a une droite, c'est marqué ben, Go Sport en grève. On aurait pu rajouter d'autres termes, hein, comme ras-le-bol de la pression.
Bonjour.
C'est le Canu Info du lundi soir.
Sur la plus rebelle.
Non, mais oh là là. La vérité éclate. Nous ne sommes pas le lundi soir, mais le vendredi soir. J'aimerais déjà être lundi soir parce que le nouveau Canu Info du lundi soir, c'est la fête. Alors, aujourd'hui, on commence par parler du rassemblement du collectif des jeunes majeurs qui s'est passé ce matin. Et on a des bonnes nouvelles à vous annoncer.
Voilà, ensuite on enchaînera en vous parlant du blocage d'une école maternelle dans la région de Saint-Étienne.
On écoutera un petit reportage sur la fête des opposants à l'A45.
Et ensuite, on parlera de Calais, de Sarko à Calais, mais aussi de Béziers où la police des polices a été saisie. Et on parlera aussi de la saisine collective contre la brutalité de la police lors du mouvement social.
Et on restera sur la question policière puisqu'on parlera de la démission de Yves Janier, le procureur de la République qui a menti tout l'été au sujet de l'assassinat d'Adama Traoré.
Pour ensuite partir aux États-Unis où il y a des émeutes en ce moment à Charlotte suite à un double meurtre policier.
Et alors on passera des États-Unis à Hauteville, Lonne, dans le Bugey, où on parlera d'un monstrueux forage qui est prévu.
C'est moi. Ensuite, pardon. On vous parlera ensuite d'un projet de loi sur l'IVG qui est déjà très restrictive en Pologne.
Puis il y aura les brèves du Kurdistan.
Bah oui, bien sûr. L'agenda.
Et l'agenda. Vélo, capitale de la résistance.
Prenons une ville, Lyon.
Lutte contre l'extrême droite, lutte contre les restructurations, manifestations de soutien à la ZAD et bien d'autres. Maintenant, dans le Canu Info, c'est la rubrique locale.
À Lyon, nous pensons que chacun est capable d'innover. Nous rassemblons les conditions nécessaires pour faire émerger les projets
nous
les plus.
Nous agissons avec la volonté la plus respectueuse et la plus responsable.
Vous allez bien, la précarité n'est pas minimale à Lyon.
Difficile.
Pour cela, nous récoltons les données du territoire, les organisons et les traitons.
On ne pense pas ici que cela fait plaisir à aucun des adjoints élus ici.
Et vous
allez
en bonne intelligence. Pouvoir inventer et construire la ville de demain est une chance. Construisons-la ensemble.
On ne vous laissera pas faire.
On ne vous laissera pas faire.
Monsieur le maire.
Monsieur le maire.
Monsieur le maire.
C'est...
Et voilà, on est toujours dans le Canu Info du vendredi soir, bien sûr le vendredi soir, hein, on ne se trompe pas. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé ce matin? Alors pour raconter ce qui s'est passé ce matin, il faut que je revienne à mardi. Mardi 20 septembre, donc il y a Rabi, un membre du collectif des étudiants, étudiantes, étrangers et étrangères de Lyon, sans papier, sans papier et solidaire, qui est inscrit en Master 1, s'est fait interpeller en gare de Perrache. Et oui, parce que la gendarmerie se promenait dans la gare de Perrache et... arrêtait tous les noirs et les noires qui passaient. Donc du coup, notre camarade Rabi s'est retrouvé enfermé au centre de rétention de Saint-Exupéry. Il avait été menacé d'expulsion. Ils avaient déjà acheté un billet d'avion pour lui pour mardi. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que Rabi, il est membre d'une organisation qui s'appelle Réseau Social pour le Bien-être de l'Humanité et qui du coup en fait est considéré comme un dangereux opposant au régime de la République démocratique du Congo. Donc du coup, il a réalisé une conférence en Suisse et il a justement été approché à ce moment-là par des personnes de la République démocratique du Congo qui lui ont dit que si jamais il revenait au pays, il se faisait arrêter tout de suite. Donc du coup, il était vraiment, vraiment, vraiment en risque de se faire arrêter si jamais il retournait au Congo. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que... qu'est-ce qui se passe? Ce matin, il y avait un rassemblement, donc du coup, au tribunal administratif, bien sûr, pour contester son OQTF. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, on a gagné. Et oui, Rabi a gagné. Il y avait une trentaine, voire une quarantaine de personnes, soyons fous, dans le tribunal. Et suite à des vices de procédure, l'OQTF de Rabi a été annulée. Donc du coup, il dispose d'un délai d'un mois pour déposer une demande de titre de séjour. Et ensuite, après, si jamais un titre de séjour était refusé, de faire une demande d'asile. Donc du coup, on reste connecté, on reste mobilisé sur cette histoire quand même. Si vous voulez avoir plus d'infos, vous allez bien sûr, comme d'habitude, sur le Facebook du collectif des étudiants et étudiantes étrangers et étrangères de Lyon sans papier, sans papiers et solidaire. Et sinon, le collectif sera présent dans le Canu Info du lundi prochain. Donc du coup, vous pouvez écouter le Canu Info de lundi prochain. Et on est parti à Saint-Étienne.
Et voilà. Et donc, à Saint-Étienne, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a un groupe de parents très déterminés qui occupent l'école maternelle de Chavanel depuis le 21 septembre. Et pour une durée encore indéterminée. Donc cette occupation, c'est pour soutenir les enseignants dans leur demande d'une classe supplémentaire. Donc cette école, c'est 3 classes de 30 et une de 28 élèves, gamins. Donc des classes en surnombre qui rendent difficile l'accueil des enfants et qui ne permettent pas une prise en charge notamment confortable pour les plus jeunes. Donc la fatigue, tant chez les enfants que chez les encadrants et enseignants, se fait déjà sentir au bout d'à peine 3 semaines de classe. Donc l'équipe enseignante avait fait part dès le 2 septembre des difficultés à travailler dans ces conditions et avait demandé l'ouverture d'une classe supplémentaire. Cette demande étant restée sans réponse, le personnel a décidé d'une journée de grève ce mardi, cette semaine, 20 septembre. Grève qui a été très soutenue par les parents lors d'une réunion notamment qui a eu lieu le 13 septembre, donc au cours de laquelle 50 familles étaient présentes. Donc ça a été très soutenu au point que les parents d'élèves ont annoncé que sans accord de l'inspection l'inspection académique pour l'ouverture d'une cinquième classe, ils prendraient l'initiative de bloquer l'établissement pour une durée indéterminée. Donc chose promise, chose due. Ils ont mis leur menace à exécution et ils bloquent depuis l'école, donc depuis mercredi. Donc on espère qu'ils vont obtenir leur fameuse cinquième classe. Donc voilà.
Ça, c'est le bruit sur une autoroute. C'est ce qu'on pourra bientôt entendre à Morlaix, comme dans de nombreuses autres communes, si le projet de la 45 voit le jour. Mais ça, c'est sans compter sur la détermination des opposantes et des opposants. Ils et elles étaient réunis à Morlaix le dimanche 18 septembre pour organiser la lutte contre ce projet inutile et absurde.
Sur la commune de Morlaix avec mon frère et on est là sur notre terrain où va passer l'autoroute. Le projet, ça fait très longtemps qu'il est là et ça s'est accéléré un petit peu au mois de juillet quand ils ont voté le plan de financement de la 45 à la région. Donc voilà, c'est pour ça qu'on est là, c'est pour montrer que le combat commence maintenant.
D'accord, ils ont déjà pris contact avec toi, ils t'ont déjà envoyé par exemple un avis de on va te racheter ta ferme ou...
Non, pour l'instant non, c'est pas l'heure des rachats de terre. Donc là, pour le moment, on est une mobilisation citoyenne. Là, aujourd'hui, on est 2000 personnes malgré l'appui, avec beaucoup d'agriculteurs du territoire. Donc voilà, on est là pour dire notre position ferme sur ce projet vraiment inutile, complètement inutile, une autoroute parallèle et une autre payante. Donc voilà, c'est 1,2 milliard de budget, donc c'est complètement absurde. Voilà, c'est une mobilisation citoyenne. Donc au départ, on est avec nos élus locaux. Il y a des élus départementaux et de la région qui nous soutiennent aussi, qui sont contre l'autoroute. Et c'est en cela qu'on croit et c'est en cela que il faudrait monter un peu plus au créneau avec la région. C'est ces élus-là qui ont de l'influence sur le projet. Donc on attend beaucoup d'eux. Bah, s'appuyer sur les élus qui ont de l'influence, c'est très important. Donc on va voir comment continue ce projet-là. Et par la suite, si ça donne rien et si la région s'obstine à faire ce projet-là, eh ben on musclera un peu la lutte et puis on fera une résistance un peu plus forte et même très forte. Donc on est mobilisé, on est vraiment mobilisé contre ce projet et on va de plus en plus, on va vers une mobilisation plus forte.
Et tu sais quand il y a de fermes comme la tienne qui sont concernées par le fait que l'autoroute va passer sur les terrains?
Oui, il y a 500 hectares, donc il y a une trentaine de fermes. Beaucoup de fermes, vu qu'on est sur un plateau très très dynamique au niveau de l'agriculture, transforment ces produits, donc en circuit court, pour approvisionner Lyon et Saint-Étienne. C'est là un peu le non-sens, c'est qu'on parle énormément de circuits courts, toutes les collectivités veulent développer les circuits courts. On est dans un bassin de production avec toutes les productions, où on fait beaucoup de ventes directes aux particuliers, et on veut casser tout ça. Donc on est vraiment le territoire de la vente directe avec Uniferm, le premier magasin de producteurs qui est à côté, qui va être impacté aussi par ce projet. Voilà, c'est un non-sens complet. C'est qu'il y a beaucoup d'acteurs, oui, agricoles qui n'ont pas voté contre, donc à la région. Donc c'est fou, que, voilà, c'est les terres des paysans, on ne protège pas le paysan. On protège les intérêts économiques de la région, mais l'intérêt économique principal du territoire, c'est l'agriculture. Donc voilà, donc les paysans, les représentants agricoles qui défendent pas ces paysans, c'est quand même grave là. La Confédération paysanne est sur le terrain et est déterminée, donc elle nous soutient à fond. Et il faudrait un peu que les autres syndicats nous soutiennent, quoi, et soutiennent les paysans. L'abandon des terres agricoles par des autoroutes, c'est complètement hors cadre de l'agriculture. Voilà, donc,
Et du coup, là, on voit bien le parallèle. Aujourd'hui, il y a des gens de Sivens et puis des gens de Notre-Dame-des-Landes qui viennent. On voit bien le parallèle, en fait, ça se construit un peu de la même manière. C'est des formes de lutte qui vous inspirent, l'occupation des lieux de type ZAD, etc.
Ah ben, en dernier lieu, s'il reste que ça, s'il commence à donner les premiers coups de tractopelle, ben voilà, on va muscler le truc. Et voilà, ça fait partie d'une des pistes. Mais on ne veut pas en arriver là. Si on en arrive là, c'est la faute de la région, quoi. Donc c'est à eux de prendre leurs responsabilités. S'ils ne veulent pas qu'il y ait une forme de ZAD qui se développe dans le territoire, parce qu'il y a beaucoup de paysans qui sont très motivés, voilà, c'est de leur faute s'il y a un truc comme ça qui se passe. Mais nous, producteurs, on n'aura plus que ça en dernier recours.
Ce qu'on est en train de faire là, tous ensemble, en ce moment, c'est faire la démonstration que la mobilisation contre l'A45 ne faiblit pas. Que la décision de l'État et des collectivités d'octroyer 845 millions d'euros à Vinci pour une autoroute inutile et démesurée ne nous décourage pas.
Alors, Jean-Marc Dussardier, de la Sauvegarde des Coteaux du Lyonnais. C'est une association de citoyens qui existe depuis 1990, donc depuis plus de 26 ans maintenant, qui lutte contre les projets autoroutiers de l'Ouest lyonnais.
Ça veut dire que ça fait 25 ans maintenant qu'il y a des projets d'autoroute ici ?
Il y a même un peu plus. Donc 90 a commencé avec un schéma de voirie des Coteaux du Lyonnais qui était en fait l'amorce du col du contournement autoroutier de Lyon par l'Ouest.
D'accord. Et le nouveau projet, là, celui de la 45, lui, il arrive quand ? Est-ce que c'est sorti seulement il y a quelques mois ou c'est un peu plus vieux que ça ?
Alors, la 45 a vraiment eu des premières études faites en 1935, mais après, ça a été abandonné. Et en fait, il a été ressorti en 1993 par le préfet du Rhône de l'époque. Alors, le financement aujourd'hui, comme il est pressenti, c'est la région 131 millions, la région Auvergne-Rhône-Alpes, le département de la Loire 131 millions d'euros, le Saint-Étienne Métropole 131 millions d'euros et 400 millions à peu près environ par l'État. Et le reste, ce serait le concessionnaire qui pourrait être Vinci, qui est pressenti, qui mettrait le reste pour fabriquer l'autoroute complète. Alors, localement, nous, comme je dis, on est historique du coin, localement, mais on est en train, effectivement, d'avoir d'autres oppositions avec nous. Les agriculteurs sont vraiment fervents. D'ailleurs, c'est les premiers impactés, hein, donc on les soutient beaucoup et ils nous soutiennent, donc la Confédération Paysanne en premier. Et on a aussi d'autres agriculteurs qui ne sont pas de la Confédération Paysanne, ce qui est bien, parce que ça veut dire que ça élargit le cercle. Plus en plus des gens de Lyon qui nous soutiennent aussi maintenant, des groupes de jeunes de Lyon, qui soutiennent aussi d'un point de vue global, comme tous les grands projets inutiles, et ça c'est important parce qu'en fait l'A45 est un grand projet inutile qu'on veut nous imposer aussi comme ailleurs, comme à Notre-Dame-des-Landes, comme à Roibon, le Center Park, comme tous ces projets-là qui sont tous liés et qui ont tous les mêmes problématiques. Alors aujourd'hui, il va y avoir une table ronde où il y aura deux moyens de lutte qui vont être imaginés et qui vont être proposés. Il y aura aussi une coordination qui va se créer avec des commissions. On espère que de ça va sortir des moyens de lutte nouveaux que nous, même nous, n'imaginons pas encore. Pourquoi pas une ZAD ? Je veux dire, on est complètement ouvert. Si une ZAD veut se créer sur le coin, on les soutient. on perd pas le moral, on va se battre, on est loin d'avoir gagné, on se bat contre dur, mais on se battra jusqu'au bout.
Voilà, ça c'était donc dans l'Ouest lyonnais. Mais donc du coup, qu'est-ce qui se passe dans l'Est lyonnais demain matin? Demain matin, dans l'Est lyonnais, va y avoir un rassemblement. Donc à 10h30, place Guy Moquet au Mas du Taureau. Comment on va au Mas du Taureau? Bah c'est très simple, on prend la ligne A direction Vaulx-en-Velin-la-Soie, on descend à la station Laurent Bonnevet, et ensuite on prend le bus C3 et on descend à l'arrêt. Je vous le donne en mille, Mas du Taureau. Pourquoi on irait au Mas du Taureau demain matin? Pourquoi? Eh ben parce qu'il y a le colocal de la du collectif de la CGT privé d'emploi et précaire qui est expulsable. Et oui, parce que le Vaulx-en-Velin et notamment le Mas du Taureau en fait est le théâtre en ce moment d'une rénovation urbaine. Donc c'est pas moi qui le dis, hein, c'est la CGT précaire et chômeur. Et qu'est-ce qui se passe? C'est en fait une espèce de gentrification du Mas du Taureau où on va reconstruire le bâtiment, mais du coup quand on construit le bâtiment, bah c'est ballot, il y a plus de place pour le local de la CGT précaire et chômeur. Qu'est-ce qui se passe dans ce local de la CGT précaire et chômeur? Et ben en fait, c'est du coup toutes les personnes qui sont en galère, qui sont précaires, qui sont chômeurs, chômeuses, qui sont voilà quoi, en difficulté sur le lieu Vaulx-en-Velin et qui se retrouvent du coup bah, dans ce local. Il y a notamment la CGT, mais il y a aussi d'autres collectifs dont je ne me rappelle plus le nom, mais qui luttent activement contre la rénovation urbaine et contre la gentrification du quartier. C'est aussi un endroit, c'est eux qui avaient lancé, si on se rappelle, au mois de mai, les journées de Vaulx-en-Velin, les journées du Mas du Taureau, en fait, qui essaient un petit peu de délocaliser, on va dire, mis debout à Vaulx-en-Velin pour essayer de proposer quelque chose qui pourrait plus correspondre aux habitants. Et en gros, le local de la CGT précaire et chômeur, c'est un petit peu un local qui permet de combattre la précarité, mais c'est aussi en fait de revendiquer en fait un droit à la ville pour toutes et tous, et que c'est pas la ville, c'est pas juste pour les promoteurs immobiliers. Le but de la ville, c'est pas de faire de l'argent, mais c'est aussi de faire du lien social. L'idée de la rénovation urbaine, là, du coup, qui est en train de se mettre en place au Mas du Taureau, bah, c'est plus d'effacer les quartiers populaires, d'aller cacher la misère sociale, de repousser les pauvres plus loin, de repousser les précaires et les chômeurs et les chômeuses plus loin. Alors que on se retrouve avec au Mas du Taureau sur un quartier aseptisé dans lequel il n'y a plus de lutte. Donc si vous voulez soutenir le local de la CGT précaire et chômeur, c'est très simple, vous pouvez aller demain matin donc à 10h30 place Guy Moquet au Mas du Taureau. Je rappelle, on prend le métro A direction Vaulx-en-Velin-la-Soie, on descend la station de Laurent Bonnevet, on prend le bus C3 et on descend où? On descend à l'arrêt
Mas du Taureau. Et mais on peut aussi prendre son vélo, hein.
Ah, on peut aussi prendre son vélo.
Et je crois.
Ouais, on peut prendre son vélo, mais je t'avoue que c'est un tout petit peu compliqué parce qu'il faut passer par-dessus le périph, et le périph est plus adapté au C3 qu'à toi.
Mais à pied, si on n'habite pas très loin. Ou à pied, si on n'habite pas très loin.
On peut aussi y aller à pied si on n'habite pas très loin.
Ouais. On peut y aller à pied, ouais. Mais d'expérience, le C3, c'est pas top. allez, on y va.
Canu. Info.
Gendarmerie nationale! Arrêtez un peu les conneries, là, non?
Savez-vous seulement ce que c'est qu'une dictature? Une dictature, c'est quand les gens sont communistes. Déjà, ils ont froid, avec des chapeaux gris et des chaussures à fermeture éclair. C'est ça, une dictature, Dolores.
D'accord. Et comment vous appelez un pays qui a comme président un militaire avec les pleins pouvoirs, une police secrète, une seule chaîne de télévision et dont toute l'information est contrôlée par l'État?
J'appelle ça la France, mademoiselle. Et pas n'importe laquelle. La France du général de Gaulle.
Info. National.
Décidément, les temps comme les œufs sont durs. Et la bêtise n'a pas de limite.
Et voilà, c'est toujours le Canu Info du lundi. Du bar là là. Du vendredi soir.
Tu vas arrêter,
ouais.
Tu vas changer de Canu Info.
Du soir. Mais alors, parce qu'il n'y a pas qu'à Vaulx-en-Velin qu'on veut faire de la rénovation urbaine, je suis tout perturbé du coup. Il y a aussi à Calais. Mais du coup, oui, parce que ce mercredi matin, notre cher monsieur Nicolas Sarkozy s'est rendu à Calais avec toute sa troupe. Alors je vous dis les principaux et les principales. Il y avait quand même Xavier Bertrand, Éric Ciotti, François Baroin. Xavier Bertrand, je l'écris deux fois, je sais pas pourquoi. Gérald Damarnin, alors je sais pas qui c'est lui non plus. Et Natacha Bouchard. Natacha Bouchard, c'est la maire de Calais. Donc c'est... Autant vous dire que c'est vraiment le bal des... voilà, quoi, c'est des gens qui étaient là-bas, c'est pas tes potes, quoi. Ils sont pas là pour déconner et Tu les invites pas à boire un coup chez toi, quoi. Et alors, ils visitent le port de Calais, c'est super sympa. Et il y a Xavier Bertrand, du coup, qui fait le guide et qui explique, en fait, tous les moyens, qui sont super moyens, qui sont mis en place pour détecter les migrants et les migrantes qui essaient de se cacher dans les camions, dans les bateaux pour aller en Angleterre. Donc, il y a des chiens, des scanners et compagnie. Et donc là, sous les yeux de Sarko et sa bande, ils ouvrent un camion et bip d'un coup. Super coup de bol, il y a 12 migrants qui descendent du camion. Donc là, super bien. Donc autant dire que pour eux, c'est super cool, quoi. C'est, tu descends du camion, bim, en face de toi, t'as Sarko, Xavier Bertrand, François Baroin. C'est une biche qui va se cacher dans un coin, qui se retrouve face à un chasseur, quoi. C'est super. Et du coup, ils chopent la PAF qui est là. Du coup, bien sûr, c'est la PAF qui fait descendre les migrants et les migrantes. La police aux frontières, oui. Et paf. Et ils les font asseoir par terre à côté d'un... Voilà, quand ils les sortent du camion, puis ils les font asseoir par terre à côté d'un hangar. Et donc là, tu te dis un peu, Sarko et compagnie, ils vont aller discuter avec les migrants et les migrantes, comprendre un petit peu tout ça, qu'est-ce qu'ils font là, comment ça se fait. Et non, ils vont discuter avec le chauffeur du camion. Et là, la super question de Sarko, vous avez pas eu peur? Donc c'est-à-dire, ouais, il avait peur de 12 mecs qui avaient traversé toute l'Europe, qui avaient fui le monde entier, poursuivis par des flics et tout ça. Donc là, il se tarde dans un camion bien caché pour avoir peur, le mec. Mais alors, comme ça suffit pas, du coup, juste de parler avec le chauffeur de camion, ils vont toujours pas parler avec les migrants et les migrantes. Ils vont faire des selfies avec les policiers de la PAF, la police aux frontières. Ils caressent les chiens, tout ça. Et pendant ce temps, il y a les 12 pauvres mecs qui sont assis et qui sont toujours par terre. Et il y a tous les journalistes qui les prennent tous en photo. Et les flics qui sont autour avec leur qui sont en train de les encadrer, quoi. Et du coup, là, Sarko, il discute avec les flics, mais il fait pas que prendre des selfies, et il apprend qu'ils vont pas les arrêter et qu'ils vont juste, en fait, les reconduire un tout petit peu plus loin. Et donc Sarko, il est vachement vénère que on les arrête pas et qu'on prenne même pas leur identité. Et du coup, il dit quelque chose, il dit, il y a quelque chose d'effrayant dans cette démission de l'État, cette absence d'autorité. C'est-à-dire que faire sortir 12 mecs d'un camion, ils sont en train de se cacher pour pouvoir passer en Angleterre, c'est pas du tout de l'autorité, non, c'est genre, c'est sympa, quoi. Moi, quand je vais en vacances en Angleterre, je me cache dans un camion aussi. Et du coup, derrière, il va faire un meeting ensuite, et il va, rebondir un petit peu sur l'histoire de Laurent Wauquiez. Là, Laurent Wauquiez nous dit qu'on va faire des calettes partout. Du coup, il démonte ça et il dit « Si chez vous, il y a un problème dans une pièce, ce n'est pas grave. Les dégâts dans la pièce, je les mets dans la pièce d'à côté. J'ai réglé les raisons du dégât dans la première pièce. Non, j'ai dégradé la seconde. » Donc là, il parle quand même des migrants et des migrantes, donc du coup, qui seraient des dégâts. Mais alors, du coup, là, ce qu'il est en train de faire, c'est qu'il est en train d'attaquer François Hollande, qui, du coup, en fait, a une politique migratoire super ouverte pour Sarko. D'ailleurs, il vient de recevoir le prix de l'homme de l'année, François Hollande. Alors, c'est pas pour sa politique migratoire, mais c'est pour son leadership dans la sauvegarde de la démocratie et la liberté dans un contexte d'attaque terroriste et pour sa contribution à la stabilité et à la sécurité du monde. Donc, du coup, c'est vrai qu'on peut remercier François Hollande pour son leadership dans la sauvegarde de l'état d'urgence, dans la liberté de démanteler les camps de migrants, dans la déchéance de nationalité, dans les assignations à résidence, dans les perquisitions, dans les politiques de déradicalisation, dans les raves devant forum réfugiés, tout ça. C'est vrai que pour Sarko, ça suffit pas, quoi. Mais il faut dire que Sarko, il avait aussi été élu chef de l'État de l'année, je crois que c'était en 2008 ou un truc comme ça. Et du coup, quand même, il se passe pas que des trucs cool pour Sarko ce jour-là, parce qu'après avoir fait des super photos avec les journalistes, il poursuit son petit truc dans son petit périple là dans le tour de la France, et il va à Tourcoing et il voulait dédicacer son dernier livre. Alors, le titre du livre, c'est génial, c'est Tout pour la France. Et donc du coup, pas de bol, juste devant la librairie où il devait signer des dédicaces pour son livre, et il y a un petit comité d'accueil et il y a pas mal de gens qui lui balancent pas mal de trucs dans la gueule et pas mal de slogans un petit peu quoi, qui rappellent toutes les casseroles et tout ce que Sarko a pu déjà faire. Mais vous inquiétez pas, il y avait quand même les partisans de Sarko qui étaient là, les militants des Républicains qui ont déployé des drapeaux tricolores et ont chanté la Marseillaise pour protéger Sarko. Donc voilà.
Et pour continuer à parler de Calais aussi, du coup, depuis mardi, il y a eu la construction qui a commencé d'un gros mur en béton haut de 4 mètres et long de 1 km pour sécuriser la nationale qui mène au port et longe la jungle, donc là où vivent jusqu'à présent les 7000 réfugiés selon la préfecture et plus de 9000 voire 10000 selon les associations qui aident les migrants là-bas, qui aident les migrants qui veulent se rendre au Royaume-Uni. Du coup, ce mur qui a commencé à être construit, c'est un coût de plus de 3 millions d'euros. Donc, autant dire qu'avec ça, on pourrait vraiment aider les migrants. Mais bon, au lieu de ça, voilà, on fait un mur qui est équipé de caméras de surveillance. On ne sait pas si la construction va continuer parce que la maire de Calais a fait un arrêté pour arrêter justement ce mur anti-migrant. Voilà, parce qu'elle n'était pas contente qu'il y ait cette construction sans son accord. Donc elle est opposée à ce projet-là. Voilà, c'est pour le moment, les travaux continuent. Donc on va voir ce qui se passe dans les prochains jours. Il y a le ministre de l'Intérieur qui a annoncé la volonté d'intensifier les départs volontaires de Calais en créant 2000 nouvelles places d'hébergement en centre d'accueil et d'orientation et 6000 places en centre d'accueil pour demandeurs d'asile. Donc, c'est pour ça qu'il y a une note qui a été envoyée un peu dans toutes les régions pour demander voilà, combien les régions peuvent accueillir de personnes et tout, enfin, voir. Combien elle pouvait accueillir et aussi faire une espèce d'injonction aussi à accueillir des migrants. Et donc, en Auvergne-Rhône-Alpes, il y a 1500 migrants à peu près qui devraient être accueillis. Et Wauquiez, le président de la région, a déclaré qu'il ne voulait pas, qu'il aiderait les maires à trouver des solutions juridiques pour ne pas avoir à accueillir de réfugiés sur leur commune. Voilà, donc on peut se demander aussi s'ils font ça, s'ils font une expulsion d'un coup à Calais, voilà, comment, dans quelles conditions vont être aussi accueillis les migrants, enfin accueillir autant de migrants d'un coup, c'est aussi difficile de trouver des bonnes conditions d'accueil et on ne sait pas comment ça va être fait. Et voilà, donc ça c'est à voir, il y aura sûrement des luttes à mener un peu de partout pour que les personnes soient accueillies dans des bonnes conditions. Et pas faire voilà, comme Wauquiez, qui lui a carrément lancé une pétition pour dire non au projet de répartition des migrants de Calais sous le slogan non à la création de jungle sur l'ensemble du territoire national. Voilà, donc il y a à réfléchir comment les 12 000 migrants de Calais, enfin selon les associations, c'est 12 000 migrants, voir comment ils peuvent être accueillis dans des centres dans des bonnes conditions.
Voilà, alors ça c'est pour la police notamment à Calais et il y a également la police à Béziers. Donc,
police des polices.
Voilà, en fait c'est juste à Béziers, ça arrive très souvent tout le temps, mais il y a eu encore une grosse bavure policière comme on dit. En fait, du coup il y a l'inspection générale de la police nationale qui a été saisie donc hier après le décès d'un homme de 43 ans qui est mort après son interpellation dans une rue de Béziers. Donc il se baladait en déambulant en caleçon et en cassant des rétroviseurs. Bon, il devait pas être au top. Du coup, il a été signalé par des habitants et il y a la BAC qui est arrivée et qui l'a arrêté, qui l'a aspergé de gaz lacrymogène. Ils l'ont menotté avant de le coucher au sol en position de sécurité. Et c'est un peu plus tard qu'il a fait un malaise. Donc, les pompiers sont venus, mais ils n'ont pas réussi à le sauver. Voilà, donc après, dans l'article que j'ai lu, il parle d'une mort naturelle. Les premiers éléments de l'enquête. Voilà. Mais je pense que c'est tout naturel, en fait, de mourir par terre.
Quand on est en caleçon dans la ville.
Ouais. Ça devient une mort naturelle hein, par les flics maintenant. De toute
façon. C'est ça. C'est une catastrophe naturelle. Et voilà. Et toujours pour parler de brutalité policière. Il y a une saisine collective qui a été faite contre la brutalité de la police durant le mouvement contre les retraites là, au printemps 2016. Donc, en juillet, il y a 104 témoignages de victimes de violences policières qui ont été déposés aux défenseurs des droits. Parmi elles, il y en a 68 qui ont été menées par des saisines individuelles. Donc, c'est encore rien par rapport à toutes les problèmes qu'il y a eu, mais il y a eu déjà ça qui a été répertorié et fait, notamment grâce au collectif Stop Violence Policière. Donc voilà, on va voir ce que ça donne ce truc-là. Mais voilà, pour, juste pour rappeler, pendant le mouvement social, il y a eu vraiment énormément de manifestations, de grèves, de blocages, où vraiment il y avait un arsenal de la répression qui était déployé, qui était vraiment très très impressionnant. Donc c'est important de, voilà, de témoigner, de continuer à témoigner et de dénoncer en fait ce qui s'est passé et de pouvoir voilà, répertorier un petit peu tout ce qui s'est passé, toutes les personnes qui ont été blessées. Voilà, donc il y a la saisine collective du défenseur des droits. Donc le défenseur des droits, c'est une autorité constitutionnelle indépendante. Et là, la saisine a été posée au pôle déontologie de la sécurité. Et voilà, et à côté de ça, il y a aussi eu une plainte classique devant la police des polices et l'inspection générale de la police nationale. Voilà, on n'a pas beaucoup de marge de manœuvre, mais il faut quand même essayer de faire les démarches pour que la justice soit faite.
Et quand on vous dit que la police est violente, petit rappel estival, le 19 juillet, suite à une interpellation musclée à Beaumont-sur-Oise, c'est dans le Val-d'Oise, en région parisienne, Adama Traoré meurt le jour de ses 24 ans, pour des raisons qui n'ont pas encore été établies, après deux autopsies, pas encore été établies bien sûr officiellement. Les deux autopsies n'ont notamment pas relevé de traces de coups, alors que la famille, les proches et de nombreux soutiens voient rapidement, et sans doute à raison, cette mort comme un nouvel homicide raciste de la part des forces de l'ordre. Cette semaine, dans l'affaire Amada Traoré, telle que les médias la portent, on parle de ça, de l'affaire Amada Traoré, on en reparlera de cette terminologie. Nouveau rebondissement, puisque le procureur en charge de, procureur de la République de Pontoise, en charge de l'affaire, qui s'appelle Yves Janier quitte son poste et il quitte son poste la tête basse. Il est très critiqué dans sa gestion de l'affaire, y compris par son supérieur hiérarchique Marc Robert, qui estime qu'il est allé un peu vite en besogne dans sa communication, un euphémisme. Revenons quelques minutes sur ce qui s'est passé cet été, sur sa communication au sujet de ce meurtre policier. Premier point donc, tout au long de l'été, il s'est échiné à disculper la responsabilité des gendarmes dans la mort d'Adama Traoré en restant très flou sur ce qui s'était passé entre l'heure de son interpellation à 17h45 et le moment où sa mort est prononcée à la gendarmerie, soit 1h20 plus tard à 19h05. Entre ces deux intervalles, l'interpellation et la mort prononcée, on ne sait pas très bien, en tout cas pendant tout l'été officiellement, le procureur ne fait que très peu de déclarations et les déclarations qu'il fait sont souvent mensongères ou en tout cas il oriente la presse à chaque fois de façon à disculper les gendarmes responsables de cette interpellation. Il dit notamment pendant l'été, je cite, que Amada Traoré semblait être médicalement sujet à une hyperthermie au moment où il a été examiné par les services de secours. Puis il évoque la présence d'une infection très grave, je cite, hein, infection très grave touchant plusieurs organes, je cite encore, laissant entendre que la mort du jeune homme pourrait être due à un problème de santé et non à une conduite inappropriée des gendarmes. Il affirme aussi dans un communiqué livré à l'AFP, puisqu'il ne communique tout l'été que par l'AFP, on ne peut pas l'interroger, il refuse tout entretien avec des journalistes. Lorsque les secours sont intervenus, la température du jeune homme était très élevée et c'était un jour de canicule, dit-il, laissant entendre encore une fois que l'interpellation des gendarmes n'était pas en cause dans la mort d'Adama, mais c'était bien la météo qui était responsable de sa mort. Miracle de la médecine, l'infection grave après la deuxième autopsie, qui était d'abord invoquée, a complètement disparu dans le second rapport. Il est précisé qu'il n'y avait pas de point d'appel infectieux sévère, mais cette fois-ci, Yves Janier trouve un nouveau petit subterfuge. Il invoque le fait que le cœur d'Adama Traoré était légèrement plus lourd, plus gros que la normale en la matière, laissant là encore supposer que Adama Traoré est mort parce qu'il avait une déformation physique. Il a juste un cœur un tout petit peu plus gros que la moyenne. En réalité, donc Adama Traoré ne souffrait d'aucune maladie cardiaque, ni même d'infection grave. Mais là encore, la lecture des rapports d'autopsie par le procureur souffre étonnamment d'une grave omission, puisque jamais il ne communiquera durant l'été là-dessus. Pourtant, le rapport disait clairement qu'il était mort d'un syndrome asphyxique, c'est-à-dire qu'il avait manqué d'air. À deux reprises, donc, il n'a pas fait mention de cet élément décisif. En clair, donc, Amada Traoré a manqué d'air, ce qui a conduit à sa mort. Et pourquoi il a manqué d'air? Parce qu'il a subi une arrestation violente et où a été employée la technique dite du contrôle dorsal costal, ou en latin décubitus ventral. Qu'est-ce que c'est donc que ce contrôle dorsal costal? Est-ce que j'ai le temps d'expliquer ce que c'est? Oui, rapidement. Alors, rapidement, ça consiste à plaquer et à maintenir une personne ventre au sol, tête tournée sur le côté. Les forces de l'ordre ajoutent parfois à cette position d'autres moyens de contention, tels que le menottage des poignets derrière le dos et l'immobilisation des chevilles, avec parfois les genoux relevés. Et ils peuvent aller jusqu'à exercer un poids sur le dos de la personne ainsi maintenue à terre. Une technique de maintien pouvant donc conduire à l'asphyxie et qui est notamment interdite dans certains pays, comme au Canada par exemple. Et on sait maintenant, depuis la semaine dernière, après témoignage d'un pompier qui a pu voir Adama Traoré lorsque celui-ci est entré à la gendarmerie et qui a pu toucher son pouls, qu'il ne vivait plus en réalité quand il est entré à la gendarmerie. Il était donc déjà mort et il est sans doute mort pendant cette arrestation. Le départ du procureur Janier de son poste s'avère en grande partie donc lié à ses couacs dans la communication autour de cette affaire. Et transition vers l'information suivante, on remarquera à ce sujet que la presse de notre pays, nos gentils et gentils journalistes, ont toujours du mal à parler de violence de la police française, en tout cas en ces termes, notamment lorsque les flics tapent sur les jeunes noirs ou les jeunes arabes des banlieues françaises. Et par contre, à l'inverse, les mêmes journalistes parlent beaucoup plus facilement de meurtres racistes de la police quand ces meurtres se passent de l'autre côté de l'Atlantique, comme aux États-Unis. Cette semaine à Charlotte.
Et oui, on va sortir un peu du cadre national pour parler de violences policières racistes aux États-Unis. À Charlotte, au North Carolina, où depuis la nuit de mardi, des affrontements violents entre manifestants et police ont eu lieu. Et protestations qui ont débuté du coup mardi soir après qu'un homme afro-américain de 43 ans, Keith Scott, a été tué par la police. Donc Monsieur Scott a été mortellement blessé par balle lors d'une action de police qui visait à arrêter une autre personne, donc affaire dans laquelle ce monsieur n'était aucunement impliqué. Juste ce monsieur, Monsieur Scott, s'est trouvé dans une voiture sur un parking d'immeuble. Selon la version de la police, les agents l'ont vu avoir une arme dans la main. Ils lui auraient ordonné à plusieurs reprises de lâcher son arme et ils auraient tiré sur cette personne suite à ses sommations. Alors que ses proches affirment au contraire que ce monsieur n'avait qu'un livre à la main. En fait, il attendait quelqu'un. Il lisait un bouquin entre-temps. Donc le policier qui a battu la victime a été identifié. Et il a été suspendu en attendant les résultats d'une enquête administrative. Donc il y avait des vidéos de cette action. Par contre, la police, elle a autorisé seulement aux membres de sa famille et après bien 3 jours d'émeute et après l'intervention d'associations de défense des libertés de voir ces vidéos qui gardaient bien entre eux pour aller bien de l'enquête. Alors donc la famille elle a vu ces vidéos qui ne permettraient pas de clarifier les événements. Alors juste pour parler de comment la police protège la police, allons voir un petit peu les contradictions dans les déclarations du chef de la police, Monsieur Putney, qui avait affirmé au début que la vidéo montrait clairement une arme dans la main de Monsieur Scott. Et ils assuraient aussi qu'ils avaient trouvé aucun bouquin dans la voiture. Il n'a évidemment pas spécifié s'ils avaient trouvé l'arme qu'ils avaient soi-disant vue. Et ensuite, il a changé de version. Il a dit que dans la vidéo, on ne voyait pas du tout les mains de ce monsieur, donc on ne pouvait pas savoir. Bon, du coup, les protestations pour la mort de Monsieur Scott, du coup, concernent les violences bien connues de la police des États-Unis envers la population afro-américaine ou considérée comme telle dans ce pays, et la fréquence avec laquelle les policiers utilisent, ils font une utilisation disproportionnée de la force, et souvent avec un usage d'armes à feu dans des situations où cela n'est aucunement nécessaire. Pour vous citer quelques chiffres, depuis le 1er janvier 2016, 173 personnes considérées comme noires ont été abattues par les forces de l'ordre. Donc ça veut dire 2 personnes tous les 3 jours. Dans un article du Monde Diplo qui vient de sortir, on peut lire que si les hommes noirs, là on parle d'hommes, donc je vous relate ce qu'il dit l'article, on parle pas trop de femmes. Donc si les hommes noirs ne représentent que 6% de l'ensemble de la population, ils constituent 40% des civils désarmés tués par la police en 2015. Une problématique du coup des violences raciales qui est tristement connue aux États-Unis et qui a donné vie en 2013 au mouvement Black Lives Matter, qui veut dire les vies des Noirs comptent, et mouvement qui combat les violences policières, l'injustice économique et le patriarcat. Donc revenons à Charlotte, parce que malheureusement l'histoire n'est pas finie. Donc mardi, il y a eu des manifestations d'abord pacifiques et qui ont rapidement pris un tour entre guillemets plus agressif, avec des casses, des affrontements violents avec la police. Donc cela continue la nuit d'après, la nuit de mercredi à jeudi, où de nouvelles violences avaient éclaté entre les forces de l'ordre et des manifestants, au point que le gouverneur de Caroline du Nord, Pat McCrory, a décidé de décréter mercredi soir l'état d'urgence et de déployer la garde nationale pour établir la sécurité dans la ville. Selon le chef des forces de l'ordre local, jeudi matin, il y aurait eu 44 arrestations depuis le début des émeutes. Donc on n'a pas les nouvelles, les nouveaux chiffres de vendredi. Mais du coup, malgré l'état d'urgence et le déploiement de la garde nationale, des nouvelles protestations ont lieu jeudi. Et pourquoi ? Parce que il y a eu, entre autres, l'annonce de la mort d'un manifestant qui avait été blessé par balle lors des affrontements de mercredi. Un monsieur de 26 ans qui s'appelait Justin Carr. Et les versions divergent, évidemment. Selon la police, Carr aurait été blessé par d'autres manifestants, parce que les manifestants n'étaient pas d'accord entre eux, et du coup, ils s'est tiré dessus. Mais il y a quand même plusieurs témoins qui affirment, au contraire, avoir vu un agent de police tirer d'une distance réduite avec une arme chargée en balles de caoutchouc sur 7 personnes. Donc, il n'y a pas de version officielle, mais on peut bien imaginer ce qui s'est passé. Donc, suite à cette nouvelle nuit d'affrontement, la maire de Charlotte a décidé d'imposer le couvre-feu à partir de minuit, du coup, aujourd'hui. Ce qu'on peut dire, c'est que on espère et on pense que cette nouvelle mesure qui vise à rapporter le calme dans la ville et apaiser le conflit social ne suffira pas à arrêter la colère des manifestants de Charlotte qui font face à 2 meurtres policiers en quelques jours. Donc affaire à suivre dans les jours à venir.
Dans la rubrique internationale du Canu Info, on entend l'écho de lutte, on écoute des reportages insoupçonnés de manifestations à travers le monde, on évoque des thèmes variés comme le gaz de schiste
et d'exploitation de gisements de gaz de schiste,
les mouvements sociaux, les luttes et la France-Afrique. Bonne écoute dans la rubrique internationale.
Et oui, donc, la rubrique internationale, on va vous parler d'un pays qui s'appelle le Buget. Il y a un petit couac sur les génériques, c'est pas grave. Il y a une alerte générale, alerte au forage à Hauteville, petite ville du Buget. Et certains se posent la question, y aurait-il un maniaque des forages profonds sur le plateau du Buget ? Donc, a priori, oui. Et oui, oui. Et vous pensez que je vais parler du gaz de schiste ? Eh ben même pas. Donc, alors que le permis de recherche d'hydrocarbures, donc là, pour le coup, des gaz de schiste, des moussières. Donc,
tu vois que t'en parles.
Non, non, parce qu'en fait, donc, il y a eu une interdiction de prospection d'hydrocarbures, donc sur le permis dit des moussières, qui englobe du coup le périmètre du département de l'Ain, des deux départements de Savoie et du Jura. Donc ce permis n'a pas été renouvelé en raison des risques de contamination des ressources en eau induites par les forages profonds. Et ben en fait le maire de donc d'Hauteville Lompnes pour certains, Hauteville-Lonne pour d'autres, veut quand même faire un forage de à 900 mètres de profondeur, donc dit forage profond. Alors du coup c'est pas pour faire de la recherche d'hydrocarbures, c'est pour faire de la recherche de d'eau chaude. Et oui. Donc, mais en fait, ils n'en savent rien s'ils vont trouver de l'eau chaude ou pas. Mais en fait.
Ils ont inventé l'eau chaude ou pas?
Non, ils n'ont pas du tout inventé l'eau chaude. Bah, en fait, le but, c'est qu'ils veulent trouver de l'eau chaude quand même. Ils ne l'ont pas inventée, mais ils veulent la trouver. Pourquoi faire un centre aqualudique avec piscine et chauffage géothermique et tout ça et tout ça?
Oui.
Parce que Hauteville a un peu la folie des grandeurs. Parce que c'est pas. Ils sont déjà équipés d'un casino flambant neuf. Et là, je ne parle pas du casino où on achète nos bières, mais plutôt du casino où on joue au blackjack. Donc voilà, donc ils veulent construire un truc qui s'appelle un centre aqualudique. Donc voilà, mais en fait, ils veulent surtout faire du forage, parce qu'ils adorent forer. Et normalement, ce genre de forage doit donner lieu à une autorisation de recherche de sites géothermiques à basse température au terme du code minier. Et cette autorisation est délivrée par arrêté préfectoral après enquête publique pour une durée maximale de 3 ans. Et c'est d'ailleurs l'avis émis par la direction départementale du territoire de l'Ain qui avait stipulé que les deux sources destinées à la consommation humaine, c'est-à-dire, ça ne va pas vous dire grand-chose, mais pour les personnes du coin là-bas qui connaissent, donc la source des essaillants et de la chair à botte, pourraient être menacées en qualité et en quantité par un tel forage. Et donc, en fait, ben le maire pressé, alors soit il était pressé, soit il n'aime pas les enquêtes publiques, mais il a donc déposé une déclaration de forage de recherche d'eau au titre du code de l'environnement et pas du code minier, qui ne nécessite pas d'autorisation, qui n'est pas pour autant prévu pour chercher de l'eau chaude à 900 mètres. Et le préfet de l'Ain a accepté ce détournement de procédure. C'est pas encore effectif, mais c'est un truc qui va. Alors après, ça rentre dans un cadre de lutte contre justement les forages pour les hydrocarbures. Et donc c'est un tour de passe-passe un peu. On me fait des grands signes. Et...
International.
C'est vrai qu'on est dans la rubrique internationale.
Rubrique parce que je vais vous parler de la Pologne. Alors, en international, c'est pas mal. Parce qu'en Pologne, du coup, c'est une loi qui date de 1993 qui encadre encore aujourd'hui l'avortement. Et c'est une des lois les plus restrictives d'Europe. Elle limite strictement l'interruption volontaire de grossesse et l'autorise seulement dans 3 cas. C'est s'il y a un risque avéré réel pour la vie et la santé de la mère, s'il y a une grave pathologie du fœtus et si la grossesse fait suite à un viol. Et il faut savoir que pour accéder à ça, il faut 2 attestations de 2 médecins et en plus, en cas de viol, une attestation d'un procureur. Donc en fait, dans les faits, il est très difficile pour les femmes d'accéder à l'IVG et même dans ces situations. En Pologne, pays de 38 millions d'habitants et d'habitantes, ce sont entre 1 000 et 2 000 avortements légaux qui sont pratiqués chaque année et 150 000 femmes qui avorteraient clandestinement ou à l'étranger. Et cette année déjà, au mois de mars, au mois d'avril, plusieurs rassemblements en Pologne mais aussi en France ont eu lieu pour faire barrage à un projet de loi visant à interdire l'accès à l'IVG pour les femmes polonaises. à une exception extrême près, c'était lorsque la vie de la femme enceinte était en danger immédiat. Et avec en parallèle un petit groupe de médecins catholiques qui demandaient carrément l'interdiction de la contraception d'urgence au motif qu'elle favoriserait, disent-ils, la dépravation de la jeunesse. Et ouais, rien que ça. Et parce que le contexte polonais, c'est en effet un gouvernement ultra-conservateur au pouvoir depuis 2015. C'est le parti Droit et Justice qui avait déjà promis lors de sa campagne une interdiction totale de l'avortement. Depuis donc, de nombreuses manifestations ont lieu régulièrement un peu partout en Pologne pour faire entendre la voix de celles et ceux qui militent pour un accès libre à l'avortement, pour la possibilité aux femmes d'avoir le choix et pour barrer la route à ce projet des pro-vie. Mais là, dernièrement, de nouveau, une pétition d'association de pro-vie signée par 500 000 personnes, il faut savoir qu'il en faut 100 000 pour qu'un texte soit porté au Parlement, invite le Parlement polonais à revoir la loi sur l'avortement. Ce nouveau texte, il vise à interdire complètement les IVG. Il prévoit également des peines d'emprisonnement qui pourraient aller jusqu'à 5 ans pour les femmes qui avorteraient et les personnes qui pratiquent les IVG. C'est donc hier que se sont affrontés les conservateurs, favorables à l'interdiction quasi totale de l'avortement, et leurs adversaires libéraux pour examiner deux propositions de loi opposées, parce qu'en parallèle, les députés ont dû se pencher pendant cette même session sur un contre-projet à l'initiative du groupe Sauvons les femmes, qui veut au contraire libéraliser l'IVG à la simple demande de la femme jusqu'à la 12e semaine de la grossesse. Mais cette proposition a directement été rejetée hier dès la première lecture. Et c'est donc aujourd'hui qu'on a su que le Parlement conservateur polonais a décidé de poursuivre les travaux sur la proposition de loi interdisant totalement l'avortement. Voilà, donc si le Parlement adopte cette proposition de loi, l'avortement sera alors complètement interdit, donc en Pologne. Et ça deviendra non seulement le seul pays de l'Union européenne interdisant sans aucune exception l'IVG, mais également l'un des rares pays du monde à le faire. Voilà, ceci dit, si on fait un petit tour ailleurs, on se rend compte que c'est pas simple partout non plus. En Irlande, par exemple, le Parlement a rejeté au mois de juin là un projet de loi pour légaliser l'avortement en cas de malformation grave du fœtus. Du coup, actuellement, l'avortement est permis dans l'Irlande catholique que si la vie de la mère est en danger. Il est en revanche interdit en cas de viol, de malformation du fœtus donc, ou de risque pour la santé de la mère. Voilà, donc tout ça pour rappeler que le combat est pas encore tout à fait gagné partout pour l'IVG. Voilà.
Au Bakour, Kurdistan du Nord situé en Turquie, les répressions de l'État turc continuent. Depuis 5 heures ce matin, 18 villages des districts de Lidje, Hezro et Kocaköy, ainsi que des quartiers de Hamet, ont à nouveau été placés sous couvre-feu militaire en raison d'une opération militaire. Nisebin et Farkin sont toujours la proie des bombardements de l'armée turque. Celle-ci a relancé également les attaques contre les monts Kandil, bombardés par les F-16 turcs, où se trouvent plusieurs guérillas, dont celles du PKK, le HPG, les forces de défense du peuple. L'isolement du rédacteur en chef et éditeur du journal Özgür Gündem, fermé le 16 août dernier par les autorités turques, se durcit. Les journalistes du quotidien, actuellement emprisonnés, ne sont autorisés qu'à lire le journal Hürriyet, principal canal de diffusion du parti de l'AKP, celui du président Recep Tayyip Erdogan. Les attaques judiciaires à l'encontre du Parti démocratique des peuples, le HDP, ont débuté le 21 septembre dernier. Les coprésidents du parti, Selahattin Demirtas et Figen Yüksekdag, ainsi que les députés Pervin Buldan, Van Lezgin Botan, Adem Geveri, Bedia Özgüce, Ertan Tuba Hezer Öztürk et Nadir Yildirim viennent d'être convoqués à Van. Ils et elles sont accusés de propagande terroriste et d'insultes au président, à la suite des discours qu'ils ont tenus dans le district de Van. En parallèle, lors du premier jour de la rentrée des écoles en Turquie, près de 18 millions d'élèves ont dû lire les tracts du ministère de l'Éducation, célébrant, je cite, « le triomphe de la démocratie le 15 juillet et la mémoire des martyrs ». Ces tracts ont été accompagnés de deux vidéos montrant des images du coup d'État et de Recep Tayyip Erdogan sur fond d'hymne national. En réponse à ces répressions, la guérilla du PKK, les forces de défense du peuple, continue de résister. Près de 86 soldats turcs ont été tués et une soixantaine blessés à Tendurek. Aujourd'hui, le HPG a réalisé une action de sabotage à Derik. Dans les prisons, les actes de résistance des prisonniers et prisonnières politiques ne sont pas en reste. Des femmes prisonnières kurdes ont ainsi été transférées de la prison de Bakırköy à Siliviri suite à leurs protestations contre la répression qui s'abat au Kurdistan. Aujourd'hui, certaines ont mis le feu à leurs nouvelles cellules. Pour finir cette brève sur une note de solidarité politique, à Belinzona, ville suisse, des femmes kurdes ont créé une coopérative pour soutenir leurs camarades restés au pays. Elle cultive des plantes dont les femmes des coopératives kurdes implantées au Kurdistan ont besoin, mais ont de plus en plus de mal à entretenir en raison des attaques des forces armées turques. Cette coopérative de femmes kurdes, en Suisse, emploie actuellement 16 personnes.
Je te rappelle qu'on va au théâtre ce soir, Chou.
Oh oui, putain. Oh,
et voilà, merde. Maintenant on arrive au moment du traditionnel agenda. Et on voudrait commencer par vous signaler un conte musical qui a lieu à la Méduse rue Saint-Jean-Blandin, juste à côté des locaux de Radio Canu. Du coup, par exemple, si vous nous écoutez en direct dans la première salle de Radio Canu, vous pouvez par exemple vous y rendre maintenant directement. Sinon, ça commence dans 10 minutes, ça s'appelle Un cri, et c'est le spectacle d'une histoire comme une autre, celle-ci est celle d'un migrant. Et ça a l'air d'être un chouette local qui est en train de se remonter à côté de Radio Canut, donc on vous invite à aller voir. Sinon, si
ils,
vous avez envie...
Ils font des travaux d'ailleurs, là, non ?
Et ils font des travaux par ailleurs, je pense que c'est la préparation de la salle ou les voisins qui essaient de s'exprimer eux aussi. Sinon, dimanche, vous pouvez vous rendre au traditionnel salon de Cluny. Alors, pas de salon du livre libertaire cette année sur Lyon, mais vous pouvez y aller en Saône-et-Loire. Donc cette année, le salon du livre aura pour thème la question de la violence. Donc pour aller à Cluny de Lyon, il faut prendre un train jusqu'à Mâcon par exemple, puis prendre un bus. Et vous pourrez y retrouver plein de maisons d'édition, mais aussi par exemple le collectif Cas d'école qui a notamment porté le guide d'autodéfense juridique face à la police, face à la justice. Après, du coup, vous êtes un peu culturé dimanche, c'est l'heure des grandes révolutions le lundi. Du coup, vous aurez un peu le choix, toujours en naviguant un peu, d'aller soit à Nantes, soit à Grenoble. À Nantes, c'est la lutte contre le climate change, bien sûr. Climate change, je sais pas trop comment il faut dire. Mais bon, il se passe mal de choses à Nantes, et notamment les remobilisation autour de la ZAD face aux expulsions, on vous en parlera d'ici deux minutes. Mais au même moment, du coup, se déroule un événement international qui prétend faire partie de la solution, alors qu'il participe directement aux problèmes climatologiques et plus largement du capitalisme. Donc on vous attend à Nantes. Si ça vous paraît trop loin, vous pouvez tout simplement vous rendre à Grenoble avec le slogan qu'on voit fleurir un peu partout, à l'abordage. Vous voyez des à l'abordage, notamment à Nantes, que ça a été pour empêcher les réunions d'été du Parti Socialiste. Ça a été fait régionalement à plusieurs endroits, et notamment là, le meeting de rentrée du Parti Socialiste se déroule le 26 septembre à Grenoble. Donc il y a aussi un appel à toutes les personnes mobilisées pour venir perturber ce meeting. Et voilà, du coup, si pour les autres informations de la semaine, ça se passe plutôt sur Lyon. Donc en fait, on vous invite à consulter le site d'information locale Rebellion pour savoir ce qui se passe. Vous aurez notamment la possibilité de vous rendre à la permanence juridique des sans-papiers lundi.
Et au cours de langue de la CGA à la Plume Noire. Mais surtout, demain matin, il faut aller à 10h30, place Guy Moquet. Comment on va, place Guy Moquet? On prend son vélo, ses pieds, ou on prend le métro A, direction Laurent Bonnevet, et on descend C3 à Mas du Taureau.
Et on a le temps de parler de la mobilisation contre l'éventuelle évacuation de la ZAD. Quelques mots, peut-être.
Et voilà, du coup, parce que peut-être que vous en entendrez parler, il y a beaucoup de rumeurs qui circulent, beaucoup de textes d'appel qui commencent à sortir. Un appel notamment à une grosse manifestation le 8 octobre pour soutenir la ZAD. Et donc, il y a un appel qui est sorti, que vous pouvez retrouver sur le site ZAD Nadir en entier, qui est assez long, mais qui est assez chouette aussi, parce que ça vous permet de comprendre comment est-ce que vous pouvez vous positionner, apporter votre soutien à la ZAD sur place, mais aussi de chez vous, et notamment il y a plein de collectifs de soutien à Notre-Dame-des-Landes, notamment dans le Rhône, mais aussi dans plein de départements, et plein de manières différentes de les soutenir. Et effectivement, parce qu'il y a des risques sérieux d'attaque dans les semaines qui viennent.
On lit un petit bout du coup de l'appel.
Ainsi, ce texte dégage résistance et sabotage.
Ce texte s'adresse à toutes celles et ceux qui voudraient participer à la résistance sur le terrain ou de plus loin. Son objet est d'informer ce qui nous semble aujourd'hui crucial pour les mettre en échec, ainsi que sur l'état d'esprit dans lequel nous nous préparons. Nous vous invitons à le diffuser largement. Depuis plusieurs jours, des rumeurs d'expulsion plus ou moins imminentes bruissent sur la ZAD. Nous savons que les hôtels de la région ont été réservés. Plusieurs articles de presse avancent que les forces de l'ordre se sont vues interdire de poser des vacances de fin septembre à fin octobre. On parle de matériel militaire prêté à la gendarmerie. Mercredi 14 septembre, le préfet de Loire-Atlantique a signé deux arrêtés portant sur la destruction du campagnol amphibie, rendant possible à leur sens le début des travaux. Plusieurs sources confirmant des plans d'intervention possibles à partir du 27 septembre, sans que cela signifie qu'ils viendront dès ces dates-là. Sommet d'hypocrisie, cette date est celle où la ville de Nantes accueille plusieurs milliers de participants et participantes venus du monde entier dans la suite de la COP21 pour faire croire à ses préoccupations quant au dérèglement climatique.
Voilà, c'était un peu le premier paragraphe de cet appel, qui appelle aussi aux fuites. Hein. N'hésitez pas à envoyer toutes les informations que vous avez, dont vous avez entendu parler par votre famille, par votre travail, comme ça, en passant dans le métro, autour de ces expulsions, autour de la ZAD. Et évidemment, il y a toujours un rappel plus fort que les habitants et habitantes ne partiront pas, vont continuer à défendre cette zone, et à défendre surtout toutes les valeurs et les expérimentations qui y sont faites. Il y a beaucoup de préparation autour de ces possibles expulsions, et c'est assez chouette de voir qu'il y a à la fois des lycéens, lycéennes qui, par exemple, seraient prêts à bloquer leur lycée en soutien, qu'il y a aussi des manifestations, il y a des opérations escargots. Voilà, les moyens sont vraiment multiples pour apporter son soutien et essayer d'être stratégique par rapport à cette répression policière. Évidemment, il est encore temps de leur faire comprendre qu'ils vont se planter, puisqu'il n'y a toujours pas d'expulsion maintenant, et que là, on parle encore de rumeurs, même si ça se précise effectivement.